Chapitre 28. La prison des femmes. Fernot, lui aussi, avait vu la porte s'ouvrir. Francis Drake le comprit en sentant que sa montée s'arrêtait. Le Canadien devait observer ce qui se passait. C'était pour cela qu'il cessait de haler la corde. Drake, suspendu par les aisselles le long de la palissade, comme un paquet, regarda la porte de l'habitation de Grigoriev. Trois hommes en groupe sortaient. Ils étaient enveloppés d'amples capotes de drap gris à épaulettes d'or, des capotes d'officiers russes. Sans doute était-ce Grigoriev et deux de ses subordonnés, mais ils étaient trop loin et la neige trop épaisse pour que Drake pût distinguer leurs visages. Presque aussitôt d'ailleurs, le banquier se sentit de nouveau hissé. Quelques secondes plus tard, il arrivait au niveau de la cime de la palissade et s'y agrippait. « Dépêchons !» lui souffla Fernot. « Faites comme moi, laissez-vous tomber sur ses pieds de l'autre côté. » Le moment n'était pas aux explications. Drake, à l'exemple du Canadien, se laissa prendre par les mains le long de la palissade et lâcha prise. Il retomba sur ses pieds à 4 mètres plus bas. Malgré l'épaisse couche de neige tapissant le sol, le choc fut rude et douloureux. Les jarrets du banquier se ployèrent violemment, ce qui accentua les plis des tiges de ses bottes qui frottèrent et labourèrent la chair à vif de ses chevilles. La douleur fut si forte que Drake laissa échapper un gémissement. « Blessé ?» demanda brièvement Fernot qui s'était déjà relevé. « Non, c'est rien, » halta Drake, que la violence de son contact avec le sol avait un peu étourdi. « Je vous suis, » acheva-t-il. « Go on !»« Les femmes sont dans cette baraque que vous voyez là-bas, entourées d'une palissade en ruine, » expliqua Fernot d'une voix basse et rapide. « Il nous faudra du temps pour y arriver, car nous devons éviter d'être vus par le factionnaire qui veille devant la clôture. » « Je me charge de lui. Suivez-moi. » Dans la neige, les deux hommes se hâtèrent. La maison, la masure plutôt, indiquée par Fernot, s'apercevait à travers les flocons blancs à moins de 800 mètres de là. Aucune lumière n'en sortait. Elle apparaissait comme une ombre, bosselait à peine le paysage livide. « Ne bougez pas d'ici !» souffla soudain Fernot à son compagnon en lui désignant un maigre boulot tout tordu. « Vous m'embarrasseriez plutôt qu'autre chose. »« Ce sera vite fait, mais ne vous inquiétez pas. En cas d'alerte, courez vers la maison. Vous m'y trouverez et nous périrons ensemble s'il n'est pas possible de faire autrement. Bon courage !» De sa vie entière, Francis Drake n'eut jamais eu plus besoin de faire appel à son énergie et à son calme. Il comprenait que, pouvant à peine marcher, faible comme il l'était, il ne pouvait être d'aucun secours aux Canadiens, et pourtant il se sentait une envie raisonnée de suivre Fernot pour revoir sa fille. Il savait que le Canadien pouvait échouer dans son entreprise, qu'il pouvait être surpris, que Margaret pouvait être tuée au cours d'un combat possible entre Fernot et les surveillants. Tué. Et lui, son père ne serait pas là pour la revoir au moins une fois en ce monde. Toutes ces pensées tourbillonnèrent en moins d'une seconde dans le cerveau du malheureux homme. Pourtant, il se raidit. Il s'arrêta et laissa Pierre Fernot s'éloigner. Tout, sans aucune exception, devait être subordonné à la réussite de la tentative du Canadien. Drake, tremblant de froid autant que d'angoisse, vit Fernot s'éloigner. Bientôt, il distingua à peine son ombre à travers les flocons de neige, et l'attente commença. Fernot, cependant, avançait avec rapidité vers la palissade. Comme arme unique, il possédait un poignard et aussi ses poings. Par ses conversations avec les vieux Ivan, il s'était renseigné sur la prison des femmes. Il savait de quel côté se trouvait l'entrée de la palissade et l'emplacement de la guérite du factionnaire. Il allongea donc son chemin pour contourner le sinistre enclos et réussit à atteindre la palissade sans que la sentinelle l'ait vu. Il longea les pieux et ne fut bientôt plus qu'à quelques mètres de la guérite. Le factionnaire, un cosaque, ne dormait pas comme l'avait espéré le Canadien. Il se tenait dans sa guérite, emmitouflé dans sa large capote brune, dont le capuchon était relevé, et appuyé à son fusil, dont la courte baïonnette luisait dans l'ombre. Pernot s'arrêta pour combiner son attaque. Pendant 10 secondes, il supputa ses chances, puis, se décidant brusquement, s'élança vers la guérite. La couche de neige étouffa le bruit de ses pas. Le cosaque, la tête enfouie dans son capuchon, ne le vit pas venir. Fernaud arriva comme un fou sur le cosaque, qui, surpris, voulut lever son fusil pour transpercer son agresseur, mais Fernaud, qui avait calculé jusqu'à ses moindres gestes, lui arracha l'arme des mains et d'un furieux coup de crosse en pleine face, l'étendit sans connaissance au fond de la guérite qui chancela sous le choc de cet énorme corps s'écroulant. Fernaud vivement se pencha sur l'homme et lui retira sa capote qu'il revêtit. Il lui enleva également ses bottes, qu'il changea contre les siennes. C'étaient des bottes neuves, confortables, à souhait. Fernaud, s'étant coiffé de la toque d'astrakhan de sa victime, compléta son accoutrement en ramassant le fusil. Maintenant, il était armé, et bien. Un fusil, muni de sa baïonnette et 100 cartouches soigneusement rangées dans les cartouchières cousues à la capote. Avec cela, il avait de quoi se défendre et, au pis-aller, partir dans l'autre monde bien accompagné. Sans hésiter, il se dirigea vers la porte percée dans la palissade et qu'il avait donnée dans la cabane contenant le corps de garde. Il fallait qu'il passât par là. C'était inéluctable. Il n'existait pas d'autre entrée. Et impossible de songer à faire escalader la clôture à Margaret Drake, surtout avec la crainte d'être poursuivi et rejoint. Non, avant de pénétrer dans la prison des femmes, Fernaud devait se débarrasser du corps de garde. 4 hommes en tout, 5 au plus, qu'il s'agissait de réduire à l'impuissance. Le Canadien se sentit de taille à les affronter. Arrivé devant la porte, il la frappa doucement de la crosse de son fusil. Une longue minute s'écoula, puis le panneau tourna sur ses gonds, et un cosaque, sans armes, celui-là apparut. « Viens vite, j'ai du vodka !» l'informa Fernaud dans l'oreille. « Et fais attention que les autres entendent !»« Le vodka, mot magique !» L'homme fut si enthousiasmé par la perspective de sanctionner le bienheureux alcool qu'il ne songea pas à se méfier. « Oh, les autres, ils dorment, tu peux entrer » dit-il candidement. Fernaud n'aurait pu espérer une meilleure réponse. Mais il continua la conversation à sa manière, en attirant à lui le cosaque et en lui assénant en plein front un splendide coup de crosse qu'il envoya rouler dans la neige l'esprit au pays des songes. Fernaud, le plus vite qu'il put, traîna l'homme évanoui contre la palissade à quelques pas de la porte, puis le recouvrit de neige. Cette précaution prise, il courut vers la porte qui était restée ouverte et franchit le seuil. La petite pièce dans laquelle il pénétrait était éclairée par une lanterne pétrole en cuivre, toute verte de grisé. Un énorme poêle de terre sibérien occupait entièrement une des murailles. 4 cosaques, tête nue, leurs capotes jetées çà et là sur le sol, ronflaient, étendus sur l'appareil de chauffage. Fernaud hésita. Les cosaques paraissaient dormir solidement. Fallait-il les assommer ou bien se fier à leur sommeil? La première alternative semblait s'imposer au nom de la simple prudence. Mais Fernaud se sentit pris de répugnance à l'idée de frapper ces hommes sans défense, fussent-ils même de vils argousins. Ayant refermé la porte, il prit une lanterne posée sur le sol, l'alluma à la lampe et sortit par une seconde porte faisant face à celle-là, par laquelle il était entré. Elle donnait sur une petite cour rectangulaire dont une masure occupait le fond, la prison. Pernot, son fanal au poing, son fusil en bandoulière, traversa la cour et ouvrit sans hésiter la porte du petit bâtiment. Il eut un serrement de cœur. À la clarté d'une lampe suspendue au plafond par un long fil de fer rouillé, il distinguait 7 femmes, vêtues de haillons, qui dormaient étendues sur une couche de paille pourrie jonchant le sol. Elles étaient enroulées dans des couvertures rapiécées et filochées dont un chiffonnier n'aurait pas voulu. Et en l'une des malheureuses créatures, Fernand reconnut Farcareth, la belle Miss Drake, celle dont les journaux américains citaient l'élégance et le charme. L'infortunée dormait, elle aussi. Sans doute était-elle le jouet de quelque songe affreux, car par moments de violents soubresauts la secouaient, et son visage émacié, resté beau malgré la souffrance et le chagrin, prenait une expression de terreur intense. Fernand, comme cloué au seuil, contemplait la jeune fille et des larmes montaient à ses yeux. Ce fut Margaret Drake elle-même qui mit fin à la sombre méditation du Canadien. L'air froid entrant par la porte ouverte la fit tousser et l'éveilla. Elle eut un grand frisson, ouvrit les yeux, se dressa et vit le pseudo-cosaque. Sans doute était-elle habituée à voir des rondes nocturnes, car elle eut une moue de dédain et fit un mouvement pour reprendre sa place sur la paille. Mais Fernand marchait vers elle. La jeune fille, ne comprenant pas, eut un mouvement de recul. Et comme le Canadien continuait à s'approcher, elle ouvrit la bouche pour demander ce que tout cela voulait dire. « Chut, Miss Drake, pas un mot, je suis Pierre Fernand !» souffla le Canadien en levant sa lanterne de façon que la lueur éclaira son visage. Margaret Drake resta sans voix, hagarde. Comme son père, comme tout le monde à bord de l'Adler, elle avait cru Fernand noyé. Et voici qui lui apparaissait, revêtu d'un uniforme de cosaque au milieu de la nuit. Elle dut se croire le jouet d'un rêve, car elle leva une de ses mains amaigries et en effleura son front. « Oui, je suis bien Pierre Fernand, Miss Drake, » se hâta d'expliquer le Canadien, comprenant ce qui se passait dans l'esprit de la prisonnière. « Je viens de la part de votre père. Nous fuyons cette nuit, levez-vous et venez. » Qu'elle ne s'éveille pas, ou tout serait compromis. » Cette fois, Margaret Drake se rendit à la réalité. Tout comme elle avait reconnu sa physionomie, elle reconnaissait la voix du Canadien. L'émotion rougit son visage d'ivoire. Ses yeux eurent une lueur de joie. Pour la première fois depuis bien des mois, ses lèvres pâlies se détendirent en un sourire. Elle était déjà debout, aux côtés de Pierre Fernand, que celui-ci, comme médusé, ne bougeait pas, devenu pâle à son tour. « Eh bien, allons, monsieur Fernand, » dit-elle à mi-voix, en touchant le bras du Canadien. Ce fut comme si un choc électrique l'eût traversé. Il eut un haut le corps et d'une voix qui tremblait un peu, répondit « Oui, allons !» Dans la geôle, les prisonnières continuaient à dormir. Fernand fit passer la jeune fille devant lui et, étant sorti à son tour, referma la porte. « Faisons vite, » conseilla-t-il. « Les Cosaques dorment, mais ils peuvent s'éveiller d'un moment à l'autre et ce serait un contretemps fâcheux. »« C'est que je peux à peine marcher. Je suis faible, » avoua Margaret Drake. Fernand eut une courte hésitation, puis, doucement, saisit le bras de la jeune fille et l'entraîna. Dans le corps de garde, les Cosaques ronflaient en cadence. Les fugitifs, sur la pointe des pieds, traversèrent la petite pièce et furent dehors. « Votre père est là-bas, derrière cet arbre, miss, » fit Fernand. « Il nous attend, dépêchons. » Fernand n'avait pas tort de conseiller à Margaret de se hâter. Francis Drake, à demi gelé, souffrait une infernale torture. Bien que le Canadien eût agi aussi vite que les circonstances le permettaient, Drake commençait à perdre toute espérance de le revoir, et de revoir Margaret, lorsque leurs ombres lui apparurent. Pendant quelques interminables secondes, il crut que c'étaient deux Cosaques. Mais la voix de Fernot, assourdie par la neige, arriva jusqu'à lui. « Le voici, Mr. Drake !» Francis Drake, oubliant tout, s'élança vers les deux ombres. « Attention !» avertit soudain Fernot. « Je crois que notre évasion est déjà découverte. »